décide de prière. C'est la nature humaine de vouloir prier, de sentir ce besoin de prier. Il existe même des moulins à prière. Et quand j'étais enfant, j'ai appris des prières, des litanies, des prières toutes faites, et je les sais encore par cœur, à mon grand malheur. J'aimerais bien les oublier. Dans le temps, après s'être brossé les dents, les enfants mettaient leur pyjama, puis faisaient leur prière. D'ailleurs, j'ai lu une petite histoire à ce sujet qui est drôle et tragique à la fois. Dans ma famille, je n'avais jamais entendu une seule prière. À l'âge de 12 ans, je partis en colonie de vacances. Le premier soir, comme les suivants, avant de nous coucher, le moniteur a dit à tous ceux qui étaient dans son dortoir de mettre notre pyjama, puis de nous rassembler pour la prière. Ma première impression était que le pyjama était l'uniforme de la prière. Il fallait revêtir cette tenue et pas une autre pour pouvoir prier. Il va sans dire que cette façon de prier ne correspond pas à l'enseignement que nous donnent les Écritures. Prier signifie s'approcher de Dieu d'une manière particulière. Enfin, pour ça, tout le monde est d'accord. Sous le régime de la grâce où nous sommes actuellement, nous n'avons pas besoin d'un costume d'apparat.
Porter un petit bonnet jaune ou bien une robe écarlate. On peut venir à Dieu tel que nous sommes à tout moment. Sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'était différent. C'était différent parce que l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, était littéralement présent de façon presque visible au milieu de son peuple. Ce qui fait que ne s'approchait pas de Dieu qui voulait et n'importe comment. Il y avait des règles à respecter. Les prêtres, et le grand prêtre en particulier, devaient revêtir un habit de cérémonie très sophistiqué, distingué. Et l'une de ses fonctions, il en avait beaucoup, était de représenter et de porter le peuple d'Israël devant Dieu. C'est aussi la responsabilité de chaque chrétien, de chaque croyant. C'est une responsabilité et c'est un privilège, et Dieu compte sur chacun de nous. Il ne va pas le faire à notre place. Vous voudriez bien que lorsque vous êtes dans une période difficile de votre vie, quelqu'un prie pour vous, même que l'Église se rassemble et prie pour vous spécialement. Alors, lorsque quelqu'un en particulier est dans un besoin, rendez-lui l'appareil. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En examinant les vêtements du grand prêtre de l'Ancienne Alliance, on peut mieux comprendre ce que Dieu attend de nous au niveau de la prière. Lors de l'investiture d'Aaron, Aaron, le premier grand prêtre, l'Éternel a dit à Moïse dans Exode chapitre 28, verset 1, tu feras venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils, tu confectionneras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés, un signe de gloire et de dignité. Voici les habits qu'ils auront à confectionner, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. L'éphod, c'était une sorte de gilet composé de tissus très riches, très colorés. Il était formé de deux pièces, le devant et le dos, fixés à la poitrine par deux longs morceaux de tissu reliés par une pierre précieuse sur chaque épaule. Bon. Versets 9, 10 et 12. Tu prendras deux pierres d'onyx sur lesquelles tu graveras les noms des fils d'Israël, les 12 tribus. 6 noms sur la première pierre et les 6 autres noms sur la seconde, dans l'ordre de leur naissance. Ces pierres que portait le grand prêtre sur ses épaules rappelleront le souvenir des fils d'Israël et Aaron portera leur nom sur deux épaules devant l'Éternel comme un constant rappel. Alors vous avez le mot rappelleront, le souvenir, constant rappel dans cette phrase. Est-ce que Dieu serait amnésique? Quand le grand prêtre officiait, il devait porter ses habits de cérémonie, évidemment. Et il portait symboliquement les enfants d'Israël sur ses épaules, devant l'Éternel. C'était un fardeau sacré. C'est comme ça que nous le présente ce texte. C'est aussi notre rôle à chacun d'entre nous vis-à-vis de nos frères et sœurs. En particulier quand ils sont dans le besoin, ils sont un fardeau sacré. Je continue le texte, versets 15 à 17, chapitre 28 du livre de l'Exode et 21. 15 à 17 et 21 à 29. Tu feras le pectoral de verdict, ce sera une œuvre d'artisan ouvragé comme l'éphod. Tu y sertiras quatre rangées de pierreries. Elles seront gravées au nom des 12 fils d'Israël comme des sceaux à cacheter. Chacune portera le nom d'une des 12 tribus. Ainsi, par ce pectoral du verdict, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur, les noms des fils d'Israël, pour en évoquer constamment le souvenir devant l'Éternel. Dieu serait-il amnésique? Cette sorte de veste se portait par-dessus l'éphod. On a donc les noms des fils de Jacob et Israël qui sont gravés à la fois sur les épaules, sur des pierres précieuses, sur les épaulettes de l'éphod et sur le devant du pectoral du verdict, sur la poitrine. Pourquoi deux fois? Pourquoi les noms des fils d'Israël sont-ils écrits sur deux pièces du costume du grand prêtre? Sur son costume de cérémonie. C'est un fardeau sacré que le grand prêtre porte devant l'Éternel, mais ces mêmes noms sont aussi sur sa poitrine, sur son cœur, symbolisant la relation d'amour qui le lie, lui, le grand prêtre, au peuple qu'il représente. Parce que le grand prêtre, c'est le trait d'union, sous l'ancienne alliance, entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Il a un double rôle. Il représente le peuple devant Dieu, mais il représente aussi l'Éternel devant le peuple. Il est véritablement le trait d'union. En sa personne, en la personne du grand prêtre, Dieu porte son peuple à la fois sur ses épaules par sa force toute puissante et sur son cœur. Combien de fois dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit qu'il aime son peuple, le peuple qu'il a choisi. Deux fois. L'Éternel voulait que le grand prêtre, son représentant sur terre, lui rappelle constamment son peuple, afin que lui, l'Éternel, se souvienne de répondre aux besoins de son peuple et de le bénir. Dieu est-il amnésique comme nous? Sous la nouvelle alliance, Jésus a pris la place du grand prêtre. C'est lui notre grand prêtre. Jésus est maintenant le trait d'union entre Dieu et les hommes. Le Nouveau Testament enseigne que le Seigneur nous porte devant son Père dans les cieux. L'apôtre Paul écrit : Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ et nous a fait asseoir ensemble dans le monde céleste. Il est à la droite de Dieu et Jésus intercède pour nous. Nous aussi, nous sommes appelés en tant que prêtres, puisque nous sommes une nation de prêtres, nous sommes appelés à jouer le même rôle que le grand prêtre envers nos frères et sœurs. Nous devons les porter, ce sont un fardeau sacré, nous devons les porter sur nos épaules et les porter dans notre cœur. Le croyant qui prie pour quelqu'un dans le besoin porte un fardeau sur ses épaules et aussi la personne sur son cœur. Et notre prière a pour but d'attirer l'attention de Dieu sur le besoin. C'est ce que Dieu voulait dans l'Ancienne Alliance. Il voulait que le grand prêtre porte constamment les 12 tribus d'Israël devant lui, pour qu'ils se rappellent, pour que s'ils se souviennent. « Ah oui, c'est vrai, il faut que je les bénisse. » Nous savons aussi que l'union fait la force et Jésus a dit à ses disciples, « Là où deux ou trois sont assemblés à son nom, je suis au milieu d'eux. » Nous devrions profiter amplement de ce que le Seigneur nous a dit et de nous rassembler particulièrement quand il y a un besoin. Mais vous savez très bien, en tant qu'Église, que les besoins, il y en a toujours, d'une journée à l'autre et d'une semaine à l'autre. Et donc, c'est notre responsabilité, frères et sœurs. Dieu compte sur nous. Il compte sur chacun de nous pour porter les autres, nos frères et sœurs, dans la prière, devant lui, pour les lui rappeler. Moi, quand je prie, je ne sais pas, mais tout naturellement, j'utilise cette expression « souviens-toi de ». Je l'utilise sans arrêt dans ma prière. Je ne crois pas que Dieu est amnésique, mais j'utilise quand même cette expression « souviens-toi de ». Cette semaine passée, j'ai eu l'occasion d'aller voir Gérard Payon, que vous avez peut-être connu et qui est mal en point. Et sa femme nous a demandé, nous étions deux ou trois, de prier pour lui parce qu'elle a saisi l'occasion du fait qu'il avait des visiteurs pour qu'on prie pour son cas, pour lui, pour ses besoins. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Nous sommes là pour ça, nous sommes faits pour ça. Quand Jésus était sur terre, il a donné plusieurs fois des enseignements sur la prière, et les mêmes aussi plusieurs fois. Il avait lui-même l'habitude de prier régulièrement, et plus encore dans les moments importants de sa vie. Probablement, un disciple de Jean-Baptiste, une fois, s'aperçoit que Jésus entretient une relation très intime avec son Père, et il désire connaître le secret. L'évangile de Luc rapporte, Luc chapitre 11, qu'un jour Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un des disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Ce disciple ne cherchait pas une technique, un art, un rituel, mais il voulait apprendre à s'approcher du Père céleste et à communier avec lui. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par nos grands airs, une voix majestueuse, particulière et un langage fleuri. Les prières prétentieuses le fatiguent. Il me connaît tellement mieux que moi-même et il désire simplement que je m'adresse à lui du fond du cœur. Alors Jésus répond à ce disciple par la prière célèbre du Notre Père, puis selon son habitude, il l'a fait suivre d'une parabole, une étrange parabole, qui décrit une scène courante de la vie en Palestine au premier siècle. Et il exprime la frustration de quelqu'un qui prie et ne reçoit pas de réponse. Luc 11, à partir du verset 5. Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit. En grec, c'est à minuit, pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » À cette époque, on voyageait souvent de nuit pour échapper à la chaleur. Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde, « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne veux pas me lever pour te les donner. » Et Jésus de dire, « Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera à cause de son impertinence et il lui donnera tout ce dont il a besoin. » Supposons en effet que vous rentriez de vacances. Bon, il est tard, un samedi soir, le frigo est vide. Un message sur le répondeur téléphonique dit qu'une tante arrive à la gare à 23 heures. Mince alors, il est presque minuit. Et alors que vous l'aidez avec sa valise et que vous êtes certain qu'elle a dîné en route, elle vous dit comme ça en passant qu'elle dévorerait un bœuf entier. Zut alors, elle n'a pas pris le temps de s'arrêter. Tous les magasins sont fermés, j'ai rien à lui offrir. Je cours chez le voisin et je le réveille. Il me demande si j'ai vu l'heure. Il n'est pas content du tout. Mais comme j'insiste, il finit par m'ouvrir sa maison et son garde-manger. Jésus encourage ses disciples, ceux qui le suivent, à formuler leur requête à Dieu avec insistance, quitte à l'importuner si c'était possible. L'intercession ne devrait jamais être interrompue par le découragement ou la lassitude. L'impression de cette parabole laissée aux auditeurs est que l'effronterie paye. C'est le moyen d'obtenir ce qu'on désire. Il n'y a qu'à continuer à frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Alors ces auditeurs sont bouche bée. Jésus profite alors de la stupéfaction de ses auditeurs pour faire une déclaration solennelle. Versets 9 et 10, Luc chapitre 11. « Ainsi moi je vous le dis, demandez vous recevrez, cherchez vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Les trois verbes « demander, chercher et frapper » sont en crescendo. On demande quand on a un besoin, c'est relativement banal. Quand on cherche, c'est différent, on élargit son champ d'action, on stresse, on s'affaire, on bouge. Et alors quand on frappe, on est prêt à tout démolir pour supprimer les obstacles. Jésus affirme ici que tout comme l'homme égoïste de la parabole a cédé devant l'impertinence de quelqu'un qui lui cassait les oreilles, ceux qui persistent à prier Dieu seront entendus. C'est sa promesse. Jésus continue. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Ici, les questions de l'Esprit Saint. Matthieu a le même passage parce que, comme je l'ai dit, Jésus a donné cet enseignement plusieurs fois. Mais au lieu de Saint-Esprit, il écrit que Dieu donnera des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Matthieu 7, 11. Vous et moi, nous avons fait l'expérience que Dieu semble parfois, souvent, sourd à nos intercessions. Et pourquoi donc? Nous savons aussi que Dieu cherche notre sanctification. C'est Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Dieu n'est pas intéressé par notre confort. Quand les disciples étaient au milieu du lac de Génézareth à faire du surplace à cause de la tempête, Jésus les a vus. Il était en train de prier. Il n'est pas venu à leur rescousse tout de suite. Il a continué à prier. Ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'il les a rejoints finalement en marchant sur les eaux. C'est dans Matthieu 14, Marc 6, Jean 6. Paul, l'apôtre Paul, était une armoire à glace de la foi chrétienne et de la prière. Il a prié plusieurs fois pour que Dieu enlève les chardes qu'un démon lui avait mis dans la chair. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Dieu veut que j'apprenne la patience. Il veut forger mon caractère et approfondir ma foi. Il a un plan pour chacun d'entre nous, bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Vous êtes une communauté, une église, et nous participons tous à divers réseaux d'influence. Et ce qui arrive à l'un a des répercussions sur les autres. C'est tellement vrai quand il y a une tragédie, une maladie dans une église. J'ai mentionné Gérard Payon. Ce qui est arrivé à Gérard Payon a affecté un nombre très grand, très important de gens. Mais pendant que je prie et que rien ne se passe, que fait Dieu ? Eh bien, Dieu m'écoute, c'est ça la promesse des Écritures quand nous invoquons son nom. Et il va me répondre à sa façon, en son temps. Si, coincé et pressé par des besoins, je ne crains pas d'importuner un voisin grincheux, alors pourquoi ne ferais-je pas de même avec Dieu qui est mon Père céleste ? Ne m'accordera-t-il pas ce dont j'ai besoin en temps voulu? Alors cette prière, qu'elle soit dans Matthieu ou dans Luc, elle a une limite. Il est dit que ce que nous devons demander doit être des bonnes choses aux yeux de Dieu. Je n'ai pas la prétention de définir ces bonnes choses. C'est la limite de cette prière. Nous adressons des requêtes à Dieu qui sont faites selon notre perspective, toujours très limitée et souvent égocentrique. Parce que, il faut bien le dire, nous ne voyons guère plus loin que le bout de notre nez. Monica, la mère de Saint-Augustin, était chrétienne et elle désirait ardemment que son fils libertin le devienne. Elle a prié instamment Dieu pour qu'il n'aille pas à Rome. Il est allé à Rome. Mais ce fut le moyen par lequel il s'est converti à Jésus-Christ et est devenu saint Augustin. Il arrive souvent que Dieu réponde aux désirs ou aux besoins sous-jacents à la prière, mais pas à l'expression verbale. Dimanche passé, j'étais dans une église à Grenoble et j'ai rencontré quelqu'un que j'ai connu il y a bien longtemps et qui m'a parlé de quelqu'un d'autre qui est en Bretagne maintenant et qui a un cancer généralisé. Alors j'ai téléphoné à cette personne, mais j'ai appris que une chose intéressante. Dans son église, ils ont fait une onction d'huile. Et suite à cette onction d'huile, parce que bon, le cancer est partout, et le cancer, quand il est dans les os, c'est très pénible. Et suite à l'onction d'huile, elle n'a pas été guérie, mais elle a plus de douleur dans les os. Alors pourquoi est-ce que Dieu guérit partiellement ou agit partiellement? Mais je ne sais pas, moi. J'aimerais bien savoir. Je ne sais pas. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4, verset 10, on trouve la prière d'un certain Jabez, un illustre inconnu dont on ne sait absolument rien du tout, sinon la requête qu'il fit à Dieu. On lit sa prière. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. » Et le texte dit, « Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » Qui ne veut pas recevoir la bénédiction de Dieu dans sa vie? C'est notre désir à tous. Mais encore faut-il demander ces choses à Dieu. La porte de son bureau est toujours grande ouverte. Mais encore faut-il y entrer et s'y installer et persévérer. Dans l'Épître aux Hébreux, on lit « Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Et plus loin, dans le même livre, il dit « Dieu récompense ceux qui le cherchent. » Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci Jacques. Une demi-heure, hein? Bien. Merci pour cette réflexion sur la prière. Merci d'avoir accepté de traiter ce sujet qu'on t'avait demandé. Je vous invite, moi, à regarder les informations concernant la vie de l'Église cette semaine. Mais juste avant ça, ce matin, j'ai entendu derrière moi une petite voix que j'avais plus entendu depuis longtemps et qui m'a réjoui. C'était le retour d'Annie Laure, qui est là parmi nous. On se réjouit, petite sœur, de te retrouver parmi nous. Ça nous fait une grande joie de te retrouver, de retrouver ton grand sourire. Que Dieu te garde dans ton retour aussi. Alors, les infos pour les activités de l'Église cette semaine. Demain lundi, 14h, Femme Club. Demain soir, 19h30, le Conseil d'Anciens. Pensez-y aussi dans la prière, pas seulement pour prier pour les anciens, mais pour prier pour les sujets qu'on travaille. Et demain spécialement, nous recevons les responsables de Kid Games pour discuter de la suite du projet de Kid Games pour cette année ici à l'église. Donc on veut aussi, si vous avez du temps pour penser à prier pour ça, si c'est bien aussi. Jeudi soir, l'Assemblée Générale. À 20h, non pas 20h30, on vous invite à faire tout pour être présent ou à donner des pouvoirs à vos proches pour pouvoir qu'on ait atteint le quorum et qu'on puisse aussi prendre les décisions qui s'imposent pour cette Assemblée Générale. Juste dire par rapport à ça encore, ce n'est pas lié à l'Assemblée Générale, mais c'est quelque chose de concernant les réunions qui se sont passées. À partir de ce soir, pour 2 semaines environ, vous pourrez consulter sur le site le compte-rendu de la réunion du 29 janvier, la réunion de membres du 29 janvier, pour ceux qui n'y étaient pas, s'ils veulent voir les discussions que nous avons eues ce jour-là. Donc il suffit d'aller sur le site. D'autres activités, fin de semaine donc, un samedi chargé avec beaucoup de choses, samedi 31 mars, club d'enfants, il y a les papillons au fond pour inviter des enfants, de vos voisins, de vos amis, 8-10 ans, oui c'est ça, 4-12 ans, j'allais bien faire une erreur, 4-12 ans, voilà, prenez les papillons, ils sont sur la petite table au fond. 14h30, le groupe d'ados, 17h, ici, explosion de louanges, avec le groupe de jeunes, et puis je pense en suivant le groupe de jeunes, normalement, en fin de journée, vers 20h30. Les jeunes sont en week-end, en grand week-end, ils sont partis vendredi déjà, au Pradlis, on veut aussi se réjouir avec eux aussi pour le beau temps qu'ils ont, et j'espère pour le beau temps qu'ils ont aussi intérieurement à partager ensemble ce moment. Dimanche prochain, 1er avril, c'est pas une blague, on a notre culte ici, 1er avril, mais si vous avez un poisson derrière votre voiture, vous pouvez aussi venir, hein, en pensant que c'est pas un poisson d'avril aussi. Venez donc dimanche prochain ici, 9h30, café sous-sol. Moi, je vous invite à venir à 9h30, partager ce petit temps de café sympa. C'est vraiment très chouette de se retrouver un petit peu à l'avance. Et puis, on arrive au culte super détendu déjà. Ça se passe hyper bien, vous verrez. Puis, le café est bien. 10h30, notre culte. On aura un thème spécial dimanche qui sera sur Jésus. Et puis le mardi 3 avril, juste, je donne juste cette info pour les aînés, l'étude biblique pour les aînés, ici à 14h30. Voilà pour les activités. Je voulais juste donner deux nouvelles encore. D'abord vous dire qu'Anne-Lise, qui est cachée là-bas, est ressortie de l'hôpital. Elle est cachée là. Voilà, je l'ai vue vers le fond tout à l'heure. Je t'ai vue vers le fond là-bas, c'est pour ça. Anne-Lise est sortie après une série d'examens. Elle a encore des autres examens qui viennent. On veut aussi penser à ça. Elle a eu une semaine difficile avec aussi des soucis au niveau toujours de son problème dentaire et de son problème de remboursement qui est compliqué. Ça n'a pas été facile pour elle. On veut aussi prier pour que... Continuez, tu vois, Anne-Lise, continue à prier. Ça, tu sais ce que ça veut dire, toi, la persévérance dans la prière. Voilà, c'est un sujet de prière pour chacun de nous, que Canis soit aussi gardé. Ce qu'Anis ne dit pas, mais j'en ai discuté avec elle hier, c'est que le médecin aussi jouait sur le fait qu'elle était croyante. Ce médecin qui devait sortir des résultats, là. Donc il a aussi joué sur ce fait-là. Et c'est clair qu'Anis, ce n'était pas facile pour elle non plus. Donc beaucoup de choses qui se mélangent et on veut continuer à prier pour Anis et que tout ça, qu'elle sache poser, qu'elle pose vraiment tout ça auprès de Dieu. Et c'est ce qu'elle a lu dans ce passage. On veut continuer à prier pour toi, Anis. Je voudrais vous donner des nouvelles de Mélanie aussi. Alors, Mélanie est presque pas joignable, vous le savez, elle l'avait dit. Elle est donc partie suite à ce cyclone qui a eu lieu, donc partie sur le terrain. Elle est très fatiguée et le début de la semaine, elle s'est fait piquer par un scorpion. Donc, vous savez, c'est très douloureux. Donc voilà, elle est, je crois qu'elle a dû s'arrêter un ou deux jours pour se faire soigner. Donc on veut aussi prier pour Mélanie. Voilà des sujets de prière, mais c'est aussi des sujets de confiance à apporter à notre Dieu. Je vous invite à vous lever et je vous lirai encore juste deux versets qu'on trouve dans l'Épître aux Philippiens, à la fin de l'Épître aux Philippiens, et qui vont dans ce sens-là. Annie, je te laisse aussi ce verset. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et à la fin du chapitre, Paul écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. » Amen.